en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'être invité à parler aujourd'hui dans cet endroit prestigieux, et j'ai un peu l'impression, venant parler de peinture à l'Académie des Beaux-Arts, de m'être introduit dans la cuisine du Grand Véfour pour proposer de réaliser le plat principal. Vous avez devant vous un tableau de Peter de Hoogh, bien connu, l'arrière-cour d'une maison hollandaise qui se trouve au Louvre. On joue chez Madame Verdurin la sonate de Vinteuil. Tout à coup, les trémolos de violon semblent s'écarter et, comme dans ces tableaux de Peter de Hoogh, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entrouverte, tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait. Si nous commençons par ce tableau, c'est qu'il symbolise la démarche de l'esprit, du style et de l'art du roman chez Proust. Le premier plan, la surface s'écarte. Une autre vérité, tout à coup, apparaît tout au loin, et sous l'ombre, on entrevoit la lumière, une lumière dorée, celle qu'on retrouvera dans le célèbre petit pan de mur jaune tout à l'heure. C'est ainsi que dans ce roman sur tous les arts qu'est à la recherche des temps perdus, il y a des correspondances, une correspondance des arts. La peinture donne à voir la musique. Enfin, il y a une parenté entre De Hoogh et Vermeer, qui sont souvent rapprochés par les historiens, elle apparaît ici dans ce fond éclairé. Je voudrais vous parler successivement de la culture de Proust en matière de peinture, de son esthétique picturale et enfin de la création à laquelle il procède des personnages de peintre et de ses œuvres. La culture d'abord. Proust appartenait à un milieu social et à une époque où il n'était pas possible de ne pas tout connaître. Il fallait s'intéresser à la peinture, à la musique, aux monuments, aux villes d'art, dès son enfance, dès sa jeunesse. Tout cela faisait partie de l'éducation, mais pas de l'instruction publique tout à fait. Le résultat est impressionnant. Proust se rend d'abord au musée dès l'adolescence, et le musée, c'est bien sûr d'abord le Louvre qui vient d'être réinstallé, la maison, dit-il, où habitent seulement des pensées. Déjà, pour lui, on s'aperçoit que la peinture est aussi une pensée. Ses jeunes amis ont laissé bien des témoignages de ses visites en compagnie de Proust au musée, et notamment Lucien Daudet et Reynald Lohan, qui écrit souvent dans son journal « Au Louvre avec Marcel ». C'est d'ailleurs un véritable supplice que d'aller au Louvre avec Marcel, comme il reste une demi-heure devant un tableau. Et d'autre part, il lit les journaux artistiques du temps, auxquels d'ailleurs il va très vite collaborer, la Gazette des Beaux-Arts, que dirige un des modèles de Charles Swann, sur lequel nous reviendrons, Charles Frussi, la chronique des arts et de la curiosité, et d'autres. Et il suit les chroniques artistiques dans les quotidiens. Le musée symbolise dans sa nudité, dit-il encore, les espaces où l'esprit s'abstrait pour créer. Proust est le témoin de changements dans la mode de l'aménagement des musées, des modes qui reviennent toujours puis disparaissent. C'est ainsi qu'il note qu'on se mêle maintenant d'entourer les tableaux de meubles et d'objets de l'époque, et que lui, au contraire, veut le dépouillement total. Eh bien, ces arrangements, on les voit parfois renaître, y compris récemment. Il visite toutes les expositions qu'il peut visiter ou que sa santé lui permet de visiter. Notons qu'à l'époque, sauf erreur, les musées français ne font pas d'expositions. Les expositions sont dans les galeries, les plus célèbres sont Georges Petit, Durand-Ruel, Bernheim, etc. C'est ainsi qu'il ne manquera aucune des grandes expositions Monet consacrées aux grandes séries sur lesquelles nous reviendrons, la grande exposition Whistler de 1905, dont il fait le plan à sa mère pour qu'elle ne se fatigue pas et voit les tableaux essentiels, et qu'il va voir à Amsterdam l'exposition Rembrandt de 1998 et des primitifs flamands et hollandais de 1902 à Bruges. Il lit aussi, bien sûr, des ouvrages. Et notamment les grandes collections de livres d'art qui commencent à apparaître, certes rudimentaires par rapport à ce que nous connaissons maintenant, et bien souvent avec des reproductions en noir et blanc, mais peu lui importe, à partir de ces petites photos qui nous paraissent misérables, il arrive à reconstituer les chefs-d'œuvre mieux que personne. Dans ces collections, on signalera les deux grandes collections de la maison Laurent sur les grands peintres et sur les villes d'art que citera Proust en disant assez drôlement que de même que les maisons de passe sont une initiation à l'amour, de même ces collections de livres d'art sont une initiation à la peinture, car il a aussi un rapport quasiment érotique avec des œuvres d'art. Et puis il a des amis à qui il utilise toujours beaucoup, notamment Pierre Lavallée, qui fut d'abord conservateur de la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts et qui lui prête donc des livres de cette bibliothèque et qui sera ensuite conservateur au Louvre et l'auteur d'un grand livre sur le dessin au XVIIIe siècle, vous le savez, et Pierre Lavallée qui joue aussi un grand rôle dans l'initiation musicale de Proust et notamment à propos de Wagner. Proust lit aussi les œuvres complètes du grand esthéticien, philosophe de l'art, écrivain et peintre anglais John Ruskin, qui paraissent et qui comportent de somptueuses planches, et son livre sur les peintres modernes, les Modern Painters, qui initie Proust à Turner. Et d'autre part, il continue en lisant aussi des livres sur Ruskin, comme le livre de Robert de la Cisrane, qui a fait autorité à une époque, Ruskin ou La religion de la beauté. La religion de la beauté, c'est là le point important. Donc, voilà toute une bibliothèque virtuelle qui se constitue autour du jeune homme. Il a lu, d'autre part, quelques classiques, comme Le voyage en Italie de Taine, La philosophie de l'art de Taine, ou encore Il ne part pas aux Pays-Bas sans les maîtres d'autrefois de Fromentin. Mais ce n'est pas tout. Il arrivera, lui, si timide, si malade, si solitaire, et qui, dit-on, ne quitte jamais sa chambre, il devient l'ami des grands collectionneurs. Charles Effrussi, Camille Groux, qui a un véritable musée de peinture anglaise dans son hôtel de l'avenue Malakoff, comme tous les hôtels de cet endroit, comme le Palais Rose en face, il a été détruit. Et il y avait une galerie, dont on a les photos, où il y avait notamment 20 grands tableaux de Turner. Nous y reviendrons. Madrazo, qui possède un Gréco, René Guimpel, les plus grands marchands de l'art d'Europe, et dont nous avons heureusement le journal d'un collectionneur marchand de tableaux. Guimpel, héros de la guerre, puisqu'à New York en 1940, il préfère revenir en France alors qu'il était juif pour s'engager dans la résistance, et il meurt en déportation. Il s'est engagé dans la résistance avec ses trois fils, dont un autre mourra aussi. Il visite les collections Hayem, Kahn, Émile et Madame Strauss, bien sûr, Camondo, etc. Rothschild, bien sûr. Et on retrouvera des collections dans son roman, moins importantes d'ailleurs, celle du duc de Guermantes qui achète ce que Swann lui dit d'acheter, notamment les tableaux du peintre d'Archal de Perdu, Elstir, mais à la première occasion, il cherchera à les vendre parce qu'au fond, il ne les aime pas du tout. Robert de Saint-Loup, son neveu, a aussi une collection d'avant-garde, et le baron de Charlus, toujours la même famille, a également une collection. Et puis, il y a les voyages artistiques, comme on le faisait à l'époque, on voyageait surtout pour voir des monuments, des musées, des expositions. Il fera d'ailleurs des voyages uniquement en Hollande et en Belgique et à Venise. on s'est beaucoup interrogé sur le fait qu'il ne soit jamais allé à Florence. On pourrait aussi se demander pourquoi il n'est jamais à Londres. C'est ces mystères dont nous n'avons pas la clé. Il est vrai qu'il a parlé de Florence mieux que personne dans les pages de Swann sur le rêve d'aller à Florence. En France, il ne connaît guère que la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le sud du bassin parisien, toujours autour de l'art gothique, mais il ne connaît pas la France romane, il ne connaît pas la Bourgogne, il ne connaît pas Autun, il ne connaît pas Vézelay, et d'ailleurs, il n'en parle pas. Nous en venons maintenant aux peintres. S'intéresser aux peintres dont parle Proust, c'est en quelque sorte refaire l'histoire des peintres tels qu'on pouvait les connaître et les aimer à son époque. Nous verrons qu'il y a quelques points d'originalité sur ce point, mais que beaucoup de gens peuvent tout de même s'y retrouver. Et nous commençons naturellement par l'Italie, car pour un homme ou une femme cultivée de 1900, la peinture, c'est l'Italie, c'est les Flandres et la Hollande, et c'est la peinture française du XVIIIe siècle, un petit peu du XIXe si l'on veut. En Italie, c'est Florence, Padoue, Venise, mais Florence uniquement par oui dire, puisqu'il n'y est pas allé. Et nous commençons par cette célèbre représentation de Botticelli de la fille de Jétro, qui se trouve en réalité dans une fresque de la chapelle Sixtine, à gauche, quand on regarde le jugement dernier de Michel-Ange. Et cette fille de Jétro, que vous voyez ici dans une reproduction par Ruskin dans ses œuvres complètes, ici Proust fait coup double, c'est comme il dit, un degré d'art de plus, inspire à Swann son amour pour Odette. Jusque-là, il n'aime pas Odette Swann, une demi-mondaine qu'il rencontre chez Madame Verdurin, et puis tout à coup, il retrouve en elle la fille de Jétro, et puisque c'est de la Botticelli, il peut l'aimer. Pour ce qui est de Giotto, nous passons à quelques fresques de la chapelle des Scroveni à Padoue. Proust se rend à Venise en 1900 avec sa mère, et de Venise, il tient absolument à aller à Padoue voir les Mantegna et les Giotto de cette chapelle, puisqu'il ne connaît pas. Il ne connaîtra pas ceux de Florence. Et là, il a été frappé par ce que disait Ruskin des vices et des vertus de Padoue, et comme si cela sonnait quelque chose, ça faisait résonner quelque chose dans l'inconscient de Proust. Voici la charité de la chapelle des Scroveni, auquel Proust fait un sort que beaucoup de gens connaissent, puisque dans Du côté chez Swann, la fille de cuisine ressemble à la charité de Giotto. La charité dont Ruskin avait souvent parlé, mais pour en vanter la spiritualité, Proust retourne ce que dit Ruskin et n'y voit au contraire qu'un côté matériel et non spirituel. Il parle de ces traits forts et homasses, et dans lequel qui montre que les vertus sont plutôt en réalité des procédés de la vie quotidienne. Et c'est ainsi qu'il dit que le cœur, que la charité est en train de passer à Dieu, on a plutôt l'impression d'une dame qui passe un objet, un tire-bouchon par exemple, oublié à quelqu'un par le soupirail de la cuisine. Donc, il ne cesse, en fait, dans sa description de Giotto, d'ironiser sur ce qu'il voit. C'est un des traits de la critique d'art proustienne, c'est de mêler l'humour à sa description. Ici, une image plus curieuse, qui est celle de l'infidélité. L'infidélité est évoquée à propos d'Albertine. Albertine lui fait penser à un moment, elle a une sorte de jeu, un jouet qu'on appelle le diabolo, et Proust se souvient qu'il y a quelque chose comme un diabolo dans la main de l'infidélité de Giotto aux fresques de Padoue. Mais cette infidélité, Albertine est la déesse de l'infidélité. Dans sa liaison avec le narrateur, elle ne lui sera sans doute jamais fidèle. Et en plus, faisant coup double ou triple, c'est un jeune homme qu'on voit là. Un jeune homme habillé en femme. Quelle chance tout de même de pouvoir voir tout cela à la fois grâce à la peinture. On voit d'ailleurs ce jeune homme tenu par une femme qu'il a sur la main, qui lui met la corde au cou. Et cette femme qui mettrait la corde au cou d'Albertine, c'est aussi le destin de cette jeune fille, pendant que là-haut se trouve Dieu, qui regarde avec désespoir cette scène sinistre de l'infidélité, qu'on appelle aussi l'idolâtrie. Et le troisième moment, il y en a beaucoup d'autres, où Proust évoque Giotto, c'est à propos des anges dans le ciel, de la descente de la croix. Et là encore, il dira que ces petits anges lui font penser tantôt à une espèce de volatile maintenant disparu, une sorte de canard sauvage qu'on ne voit plus, ou encore aux disciples de Roland-Garros en train de s'exercer à des loopings dans le ciel et en train de faire des vols planés. On voit ici comment Proust est sacrilège également dans sa description des tableaux et comment il cherche à plaisanter à propos de ce qui avait été peint certainement extrêmement sérieusement par Giotto. Et un autre grand peintre qu'il découvre à Padoue et dont d'ailleurs certaines œuvres ont depuis été détruites, c'est Mantegna. Mantegna apparaît encore à propos d'une réception, à propos de l'exécution d'œuvres du compositeur de musique Vinteuil. Proust nous dit que, alors que la sonate de Vinteuil évoque un joueur de théorbe dans un tableau de Bellini, le septuor ressemble, qui a beaucoup plus d'ampleur, ressemble à un joueur de buccin dans un tableau de Mantegna. Et d'autre part, un valet de pied chez la duchesse de Guermantes, nous dit-il, à l'indifférence d'un garde dans le martyr de Saint-Jacques qui se trouve à Padoue. L'érudition de Proust est stupéfiante, et sa mémoire aussi, bien sûr, sa mémoire picturale, mais elle n'est jamais encombrante parce qu'il est toujours serti dans une image poétique ou dans une plaisanterie, comme ici. On pourrait dire que Proust est l'Offenbach ou le Meillac et Lévy de la peinture ancienne. C'est le lieu d'ailleurs de souligner que bien avant Malraux, puis bien avant Daniel Arras, Proust a l'art et la mémoire du détail, de commenter juste un détail dans un tableau, l'attitude d'un figurant, la couleur d'un petit pan de mur à droite d'un tableau, les petits anges qui ressemblent à des aviateurs, et de laisser tomber tout le reste. Ces détails que nous négligeons trop souvent pour ne regarder que l'ensemble. Et donc, à partir de cette vue de la peinture italienne, nous avons aussi d'autres images qui apparaissent fugitivement. C'est ainsi que Swann compare le personnage de Bloch, le visage de Bloch, au portrait de Mahomet II de Bellini, qui se trouve à Londres et que Proust n'a donc vu qu'en reproduction. Et où encore, il va beaucoup plus tard, et nous y reviendrons si nous avons le temps, à propos de ce grand tableau de Carpaccio à Venise, évoquer les manteaux dorés des personnages, qui sont les manteaux même que le couturier Fortuny va réaliser à Paris pour le personnage d'Albertine. Si nous en venons aux écoles du Nord. On est loin de pouvoir être exhaustif, bien sûr. Il y a d'abord Vermeer, que Proust situe, comme il fait toujours dans son œuvre, en deux fois. il y a une ouverture, et puis on sait que Swann prépare une biographie de Vermeer de Delft, et il faut noter que si le peintre n'était pas inconnu en France, il est mentionné par Fromentin, contrairement à ce que croit Proust, et il a été l'objet d'articles au XIXe siècle de Thore Bürger, mais enfin il n'a pas du tout la place qu'il a maintenant dans la pensée sur la peinture. Proust donc a une sorte de choc en voyant à l'exposition sur les primitifs flamands cette vue de Delft. Voici d'ailleurs le petit pan de mur jaune à droite, quand Proust, dans le texte de la prisonnière sur la mort de Bergotte, nous dit « petit pan de mur jaune avec un auvent ». Vous voyez donc la poterne avec les deux tourelles pointues, et tout à fait à droite, parce qu'on en a discuté, certains gens le situent ailleurs, je crois qu'on ne peut pas avoir le doute, le petit pan de mur jaune que relève Proust, c'est presque au moment où il pourrait n'être pas dans le tableau, on aurait presque pu arrêter plus tôt, et tout à coup, au dernier moment, il y a ce détail, et c'est là seulement que le regard de Proust, comme celui de ce personnage de Bergotte, s'accroche. Un autre peintre du Nord dont Proust parle, en synthétisant trois tableaux, ce n'est pas Rembrandt encore, c'est Bruegel. Bruegel était très peu connu à Paris à ce moment-là. Il n'y en avait qu'un seul au Louvre en 1900. Et il en connaissait deux autres grâce à des collections privées, grâce à l'exposition qu'il est allé voir à Bruges. Et il synthétise tout cela dans un paysage d'hiver dans la garnison de Doncières qui lui rappelle Bruegel. Et puis, il y a Rembrandt. Rembrandt, pour Proust, c'est une chose, essentiellement. C'est la lumière, bien sûr, ce en quoi il n'est pas très original, mais cette lumière, c'est la lumière de la pensée. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il s'agit du philosophe. Proust croyait qu'il y en avait deux, parce qu'à l'époque, quand il visitait le Louvre, il y avait deux philosophes attribués à Rembrandt, mais le deuxième, le pauvre, a été dégradé depuis et est affecté à un peintre obscur. Je ne sais même pas s'il est même encore exposé en face du Rembrandt. Alors Rembrandt, Proust lui consacrera d'ailleurs un article qu'il ne publiera pas et qui est recueilli dans le volume de la Pléiade qui s'appelle Contre Sainte-Beuve. Et puis, alors l'Espagne est évidemment très peu représentée dans les musées français et c'est très dommage. Bien sûr, on sait qu'il y avait une immense collection espagnole qui était celle du roi Louis-Philippe, mais Louis-Philippe est parti avec sa collection et elle a été dispersée. Il y a donc le cas du Greco. Au moment où Proust écrit, Proust connaît juste un Greco qu'il a vu chez son ami Madrazo, qui s'appelle la Sainte Famille, qui depuis est naturellement parti pour les États-Unis. Et il connaît l'enterrement du comte d'Orgaz et le portrait du grand inquisiteur par la première édition, le luxe, du livre de Barrès, qui a été célèbre, Greco ou le secret de Tolède, que lui a offert Robert de Montesquieu. Donc c'est d'un Greco quasiment inconnu en France, mais non de Proust, que l'on va parler lorsque, dans « De temps retrouvé », Proust décrit la guerre de 14, il décrit l'un des premiers bombardements allemands sur Paris, une expérience inouïe, c'est la première fois que Paris est bombardé, non pas par canon, ça s'est déjà produit, mais depuis l'air, par des avions. C'est la grande scène depuis le Ritz. Le héros contemple ces bombardements et il y a deux niveaux. Nous dit-il, il y a les personnages qui s'agitent en bas et puis ce qui se passe dans le ciel, comme dans l'enterrement du comte d'Orgaz. Et quant au grand inquisiteur, avec ses traits blancs et puis noircis au charbon, il y voit le visage du baron Le Charge. Et la peinture française n'est évidemment pas étrangère à Proust. Il a fait un bel article qui est resté inédit jusqu'à sa mort sur Watteau. Watteau, malade et qui arrive malgré sa maladie à peindre, c'est Proust lui-même, tel qu'il s'imagine sous les traits du pain de l'embarquement pour Cythère. Mais il y a surtout Chardin. Chardin est la poésie de nature morte, à partir duquel Proust va édifier une grande partie de sa réflexion sur les arts. Il va droit au problème. J'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Dans l'arrêt, comme dans le buffet, on va trouver l'esquisse d'un tableau d'Elstir, de peintre créé par Proust, lorsque au Grand Hôtel de Balbec, on évoque quelques vastes poissons, monstres marins qui étaient contemporains des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l'océan, etc. C'est l'arrêt de Chardin. La leçon de Chardin, c'est celle-ci. Le peintre, dit Proust, avait proclamé la divine égalité de toutes choses devant l'esprit qui les considère, devant la lumière qui les embellit. Vous voyez cette magnifique simplification, finalement, devant le monde des objets, les tableaux différents, la biographie du peintre. Il y a deux choses qui comptent, l'esprit dans le tableau et la lumière. Et c'est ce qu'on retrouvera, bien sûr, dans les tableaux du peintre Elstir. Et puis, dans Au Grand Hôtel de Balbec, le héros s'amusera à retrouver dans la réalité du restaurant, du buffet du restaurant, les natures mortes des aquarelles d'Elstir qui elles-mêmes sont inspirées de celles de Chardin. Et c'est ainsi que le problème qui va être peu à peu esquissé, mais qu'on va retrouver avec l'impressionnisme, c'est celui-ci, le sujet d'un tableau n'a finalement pas d'importance, et peut-être que celui d'un roman non plus n'a pas d'importance, puisque tout est dans le regard du peintre. Il faut dire qu'il y a un hommage autre à la peinture du XVIIIe, qui est le célèbre jet d'eau d'Hubert Robert, qui se trouve au Louvre, le jet d'eau des grandes eaux du parc de Saint-Cloud, que vous connaissez, et que Proust situe à une réception de la princesse de Guermantes, mais comme moqué, puisque là encore, une dame du monde va être éclaboussée par le jet d'eau et que le grand-duc Vladimir va s'écrier « Bravo la vieille !» Et ce jet d'eau, d'ailleurs, Camille Groulx l'avait reproduit dans le jardin de son hôtel de l'avenue Malakoff, je veux dire, non pas le tableau, mais un jet d'eau. Et nous en arrivons à un peintre que Proust a beaucoup aimé, j'allais dire presque curieusement, parce qu'après tout, ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est Gustave Moreau. Sur Gustave Moreau, il écrit une belle étude, qui restera également inédite jusqu'à sa mort, écrit juste avant l'ouverture, entre la mort de Gustave Moreau et l'ouverture du musée de la rue de la Rochefoucauld. Et Proust évoque cet extraordinaire tableau qui représente Orphée, mort, et la tête du poète, et puis un autre encore qui est le poète persan ou le poète arabe, suivant les versions, qui se trouvait dans la collection de sa grande amie Madame Strauss. Proust aime chez Moreau le rêve. Les visions de rêve, la rupture totale avec un monde réel et le caractère entièrement cohérent d'un univers séparé du réalisme, qui est celui du symbolisme si l'on veut, qui sera aussi celui du surréalisme qui va aimer Moreau, dans le cas de Breton en tout cas, et puis peut-être aussi le caractère équivoque que souligne à plaisir Proust, des hommes qui sont en même temps des femmes, le caractère asexué de tous ces personnages, ce qui a pour lui quelque chose d'infiniment rassurant. Et nous en arrivons évidemment à la peinture contemporaine de Proust, certains des peintres dont nous allons parler maintenant étant morts après lui, c'est-à-dire évidemment l'impressionnisme. Il faut bien comprendre, mais vous le savez, que donc c'était des peintres contemporains, donc contestés, discutés, certes déjà admis par beaucoup, et notamment par de grandes collections, mais néanmoins qui ne faisait pas l'unanimité. D'autres préféraient Thomas Couture, Cabanel, Danian Bouvray, et tout ce que la réouverture du musée d'Orsay refait dans les années 70 nous a permis d'admirer à la place des impressionnistes qu'on a mis dans les combles. Donc, il y a bien sûr les grandes séries de Monet, dont Proust ne rate aucune et qu'il évoque dans La recherche du temps perdu. Il y a les cathédrales et il y aura aussi, bien entendu, les nymphéas. Monet, c'est le peintre préféré de Proust. Des cathédrales de Rouen, dont voici l'une ici, figure d'ailleurs dans Jean Santeuil, le premier roman de Proust, et elles sont mentionnées également dans des articles que Proust consacre à John Ruskin. Mais ce qu'il aimera le plus, ce sont évidemment les nymphéas qu'il reproduit. Là, voilà une version quasiment réaliste, primitive des nymphéas, avant l'abstraction qu'on verra 10 ans plus tard. Et ces nymphéas apparaissent d'abord à Combray, sur la rivière, sur la Divonne, et ensuite on voit Elstir qui en peint également dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et puis ce tableau qui appartenait Les Glaçons, qui, admirable tableau qui se trouve maintenant à Orsay, appartenait à son ami Charles Frussy. Il avait pu l'y contempler longuement et il en fait un tableau d'Elstir sous le titre Dégel à Briseville, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y aurait matière à un Proust illustré, bien sûr, par toutes les citations qu'il fait des tableaux. Nous ne verrons que 25 images, mais en réalité, on aurait pu en montrer des centaines. Et puis, il y a un peintre, si j'ai de la chance, il va apparaître maintenant. Non. Voilà. Un peintre, ami de Proust. Il faut dire que Proust n'était pas ami des grands peintres. Il n'a pas été ami de Monet, il n'a pas été ami de Renoir, il n'a pas été ami de Moreau, il n'a pas été ami de Degas. Parfois, il les a rencontrés une fois, comme Degas, par exemple, ou plusieurs fois, comme Vuillard, à qui il prend des traits pour les donner à Elstir aussi. Certains tics de langage de Vuillard, notamment dans l'usage immodéré du mot « type », par exemple. Donc, Helleux, il a été son ami. Helleux, tout le monde le connaît encore maintenant par ses pointes sèches, ses milliers de femmes du monde qu'il a représentées avec un art exquis. On connaît moins ses portraits d'hommes plus remarquables, sans doute, Montesquieu, les portraits d'Henri Roir, par exemple, avec ses collections à l'arrière-plan, ou encore Boudin peignant le port d'Honfleur, ou encore un très beau portrait qui est passé récemment en vente, le Whistler, par Helleux. Et ici, c'est un modèle qu'il n'a cessé de peindre, sans doute pour s'assurer qu'on ne lui ferait pas de scène de jalousie, son épouse, Madame Helleux, sur un yacht. Et à propos de ce tableau, Proust écrit à propos d'Elstir, dans La Ronde des jeunes filles en fleurs, « Ce qui est gracieux, ce sont ces toilettes légères, blanches et unies, en toile, en linon, en pequin, en couti, qui, au soleil et sur le bleu de la mer, font un blanc aussi éclatant qu'une voile blanche. » Et tout cela pour composer donc un tableau d'Elstir, qui prend aussi à Vuillard, à Harrison. Thomas Alexander Harrison est un peintre impressionniste américain qui est appartenu à beaucoup de jury parisien, qui est très connu à Paris en 1900. Et vous voyez ici une marine qui se trouve au musée d'Orsay. Il y en a une presque semblable au musée de Quimper. Et il nous intéresse parce que dans Jean Santeuil, le peintre qui est montré est Harrison. Et il va prêter de son comportement et de son allure à Elstir. Et aussi cette idée que dans les marines d'Elstir, la mer et le ciel sont en quelque sorte interchangeables, qu'on a du mal à voir la limite entre la mer et le ciel. Helleux, j'ai oublié de le dire, Sagnette, à la table des Verts du Rhin, signale qu'on l'a surnommé le Watteau à vapeur, parce qu'il aimait beaucoup peindre des yachts à vapeur, il en avait un lui-même d'ailleurs, et ce mot était de, non pas comme on l'a dit, de Degas, mais en réalité de Léon Daudet. Et alors, Helleu avait donné du reste à Proust un automne à Versailles. Proust ne voulait accepter aucun cadeau. Il aimait beaucoup en faire, mais il ne voulait pas en recevoir. Il a été forcé d'accepter, je crois qu'il se trouve encore dans la famille de Proust, cet automne à Versailles. Proust adorait Versailles et il adorait bien sûr l'automne à Versailles, donc c'était lui faire doublement plaisir. Et finalement, il y a un autre grand Américain, après Harrison, et qui va jouer un grand rôle dans la composition d'Elstir, c'est Whistler. Proust a croisé Whistler, et Whistler était l'ami de beaucoup de gens que Proust connaissait. Il était bien sûr le grand ami de Mallarmé. Le procès de Ruskin contre Whistler n'était pas passé inaperçu de Proust. C'est là, notamment, que, comme on disait, on avait dit, je crois que Ruskin avait dit à Whistler qu'il peignait ses tableaux en quelques heures. Et Whistler a répondu à Ruskin, « Ce tableau, je l'ai peint en quelques heures, dites-vous, mais c'est que je l'ai peint avec l'expérience de toute ma vie. » Et Proust rapproche d'ailleurs ce mot, puisque Proust c'est aussi l'art des rapprochements et de la métaphore incessant, d'une lettre de Ruskin à Rossetti, « Ce que vous dessinez d'un coup est l'aboutissement de nombreuses années de rêves, d'amour et d'expérience. » Or, Whistler, c'est le peintre des harmonies ou des nocturnes en bleu et argent, en bleu et or, en noir et blanc, etc. Par exemple, le baron de Charlus a l'air d'une harmonie en noir et blanc de Whistler. Et lorsque Proust nous dit qu'Elstir peint des tableaux avec on a une harmonie gris et rose et qu'il signe d'un papillon, Whistler aussi signait d'un papillon. Ce beau tableau se trouve à Chicago. Et à Paris, nous avons très peu, grâce à la faveur de l'exposition Whistler, le musée d'Orsay a pu en acquérir un qui ressemble assez à celui-ci d'ailleurs. Proust, d'ailleurs, étend sa connaissance plus loin encore, mais nous n'avons pas tout dit de l'impressionnisme, loin de là. Dans un des tableaux d'Elstir, il est question du déjeuner des canotiers attribué à Elstir. Et vous remarquerez le personnage au fond du tableau avec un manteau gris et un chapeau haute forme. Ce personnage qui ne s'est absolument pas habillé comme le reste de la compagnie, qui a été en tenue de personnage d'opéra d'une mise en scène contemporaine à la Bastille, c'est Charles Effoussy, qui est en redingote et chapeau haute forme. C'est l'un des mécènes qui encourage Renoir, qui l'aide dans les moments difficiles et qui en possède beaucoup. Ce tableau est de 1890 et cet hommage-là, Proust a voulu en parler parce que lui aussi, très ami des Effoussy, dont il a été quasiment le secrétaire, a voulu le faire figurer dans son roman de cette manière discrète, Charles Effoussy étant pour l'aspect amateur d'art un des modèles de Charles Swann. Ils ont en tout cas le même prénom. Et il y a aussi Manet, qui est également intégré à la peinture d'Elstir, car ce qui est très curieux, c'est que lorsque Proust peint dans son roman des artistes, un écrivain, Bergotte, on n'a pas de titre de ses œuvres, et on ne prend en tout cas pas les titres des œuvres d'Anatole France, par exemple. Lorsqu'il s'agit de Vinteuil, les mots sonate, septuor ne sont à personne. Mais là, lorsqu'il s'agit d'une botte d'asperge, on doit penser au tableau de Manet, la botte d'asperge, qui est une commande de Charles Effoussy, à Manet, et qu'il a payé 800 francs de l'époque, c'est d'ailleurs pas extrêmement cher, et il faut bien le dire. Et puis, Jussy lui fait un chèque de 1000 francs. Et Manet, très confus, lui dit, mais pour ce prix-là, je vous en fais une de plus. Cette asperge qui est aussi à Orsay, la voici donc, cette asperge supplémentaire de Manet. Et donc, à partir de là, nous avons encore quelques minutes pour voir que l'esthétique que va prôner Proust n'est absolument pas une esthétique réaliste. Il combat essentiellement deux écoles, deux tendances de pensée. L'une, c'est le réalisme. La beauté n'est pas dans l'apparence du réel, elle n'est jamais dans le sujet qu'on traite. Tous les sujets cheval sont égaux. Et lorsqu'il fait à une amie, Madame de Pierrebourg, l'éloge de Chardin et de ses sujets humbles, il fait en même temps l'éloge du luxe de Véronèse, dont les scènes somptueuses, après tout, ne sont ni plus ni moins belles qu'un buffet ou une raie. Donc, il y a chez lui un formidable décalage entre l'objet auquel il s'applique et la puissance de l'esprit. De l'esprit et peut-être aussi de l'inconscient. Lorsque Proust écrit tout à coup « On peut avoir peur d'un rat et pas d'un lion », on voit que l'objet de l'angoisse lui-même peut être une toute petite chose et non pas une très grande. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai aussi de l'art. Un autre adversaire de Proust, un mot un peu daté, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce que Proust combat en appelant l'idolâtrie, c'est le fait de croire que le secret de l'art est dans le réel existant, que le secret des nymphéas se trouve dans le jardin de Giverny, que la beauté de Balzac est dans ses modèles, et qu'il faut aller voir les villes qu'il a décrites. Et nous-mêmes, lorsque nous allons au Grand Hôtel de Cabourg, ou même à Illier, ne sommes-nous pas victimes de cette idolâtrie qui consiste à croire que la beauté et le secret de l'artiste va se trouver dans les lieux mêmes qu'il a peints. Donc, l'idolâtrie, c'est croire que le secret de l'art est dans le monde, alors qu'il est dans l'esprit. Il aurait fallu d'ailleurs noter qu'à propos des tableaux, et ça nous mène en un sens à Turner, Proust, dans le fameux débat du XIXe siècle entre la couleur et la forme, entre Ingres et Delacroix, ne choisit pas les lignes, ni les formes arrêtées, il choisit toujours la couleur, au point même de l'étendre à la musique. Ce qu'apporte Vinteuil, la musique de Vinteuil, c'est une couleur unique, un timbre à nul autre pareil. Et on en vient à la création. À partir de l'art, tout ça n'est que prolégomène. La culture, la critique d'art, les visites, les voyages, les contemplations de tableaux, les descriptions dans les lettres, les relations sociales, tout ça n'est rien à côté du désir qu'a Proust de créer son peintre Elstir à partir d'un jeu de mots. Il prend le nom de Whistler, enlève le WH et inverse les deux syllabes, ce qui lui permet de faire en plus une allusion à un impressionniste anglo-américain qui s'appelle Stier et une autre à Helleux. Elstir apparaît deux fois à la recherche du temps perdu, d'abord dans L'amour de Swann, un rapin assez méprisable et grossier dont personne ne peut supposer que ce sera un immense artiste. C'est une manière d'introduire la théorie de Proust sur l'artiste. La biographie n'est rien, ça ne sert à rien de décrire la vie des gens, tout est dans leur œuvre et donc dans ce qui est caché. Elstir est un peintre moderne. C'est pourquoi le duc d'Hermande fait à propos de ses tableaux les navrantes plaisanteries que l'on a fait longtemps sur les natures mortes impressionnistes et leur prix comparé à la réalité pour les pommes de Cézanne, etc. Donc, on peut reconstruire à la recherche du temps perdu à partir de chacun des personnages du livre. Et il y a donc un roman d'Elstir, du monsieur Biche ou monsieur Tiche, surnom dérisoire qu'on lui donne dans Un amour de Swann, au peintre triomphant de Balbec. Et le peintre triomphant d'Albalbec, nous le voyons dans une visite de son atelier. La visite de l'atelier est un morceau classique, bien sûr, pour l'écrivain. Mais là, elle est particulièrement remarquable. On y trouve sa manière mythologique à la manière de Gustave Moreau. On voit sa manière japonisante. On voit ses tableaux qui ressemblent à Whistler. On voit les Renoir, les Monet. Le célèbre description du port de Carquetuit, qui intègre un peu de Claude Lorrain aussi, tout cela étant une sorte de compressé d'une culture picturale énorme en quelques toiles que d'ailleurs on ne verra jamais, car il est tout à fait impossible de visualiser un tableau d'Elstir à propos des descriptions qu'en fait Proust. C'est une des grandes questions que pose la lecture. Que voit-on quand on lit ? Si même on a le temps de voir. Et à l'inverse, que peut-on dire d'un tableau ? Le tableau nous parle-t-il ? Donc, moderne, Elstir se démodera aussi, nous dit Proust, remplacé par d'autres écoles, dans cette course perpétuelle après la modernité qui caractérise une certaine histoire de l'art. Proust décrit cette course frénétique avec malice, notant certains retours vers le passé des modes qui refleurissent, par exemple, des époques qui reviennent. Et il prédit qu'un wagon de chemin de fer va cesser d'être aussi beau qu'un tableau d'Elstir, par exemple. Il faisait allusion au modernisme. Et puis, il y a les personnages qui sont liés à la peinture, comme Swann, qui écrit une biographie de Vermeer de Delft. Il y a la fille de cuisine liée à Giotto. Il y a Albertine liée à Giotto encore. Il y a Albertine liée à Carpaccio par ses manteaux, il y a Odette liée à Botticelli. On peut dire qu'à peu près toutes les femmes de Proust sont liées à un peintre. Tout est finalement peinture dans son roman. Mais c'est une illusion d'optique en même temps. Car avec Proust, quelle que soit l'entrée que l'on prenne, le mot qu'on choisisse, le thème que l'on envisage, qu'il s'agisse de la cuisine, de la musique, de la médecine, du village. On peut reconstruire toute l'œuvre et trouver 200 ou 300 textes qui permettent de construire des thèses, des monographies et même des conférences. Le musée imaginaire de Proust, donc, est présent, accroché partout, à toutes ces phrases, dans une image, dans une plaisanterie, dans une référence. Bien sûr, on trouve un peu de cela chez Claudel, chez Valéry, chez Malraux. La peinture, à partir de Proust, dialoguera sans cesse avec la littérature. Je vous remercie.